Je réalise à l'ouverture de ce stage que la diapositive que vous avez, il y a déjà une grosse erreur dessus, puisque le titre du stage, c'est ressources numériques pour l'enseignement des mathématiques. Mais on fait comme ça des erreurs qu'on peut analyser, qui sont toujours surprenantes et qui apparaissent invisibles. On a fait cette diapositive, on l'a vue, revue. Tout à l'heure, elle a été présentée pendant une demi-heure d'installation et j'ai pas réalisé qu'il y avait cette erreur. Alors, il s'agit bien d'une réflexion commune sur l'utilisation des ressources numériques pour l'enseignement des mathématiques et en travaillant plus particulièrement la relation entre la conception de ressources et l'usage des ressources, ces deux moments, la frontière entre ces deux moments étant une frontière mouvante. Ces deux jours de travail et d'échange, plus que de formation, comme l'a souligné le directeur de l'INRP, c'est l'esprit de la collaboration entre l'INRP, les UFM, les rectorats. Et c'est aussi en lien direct avec la constitution la réflexion mathématique à l'INRP en relation avec un grand nombre d'équipes de professeurs associés. Alors, les objectifs du stage, je vous les rappelle, ils étaient indiqués dès la proposition du stage en novembre ou en octobre. D'abord, proposer des moyens d'analyse des ressources numériques existantes pour l'enseignement des mathématiques. Proposer une réflexion sur la définition et la mise en œuvre de dispositifs de conception de ressources numériques en mathématiques, et proposer une réflexion sur l'assistance qui pourrait être fournie aux enseignants en formation initiale ou continue. La journée d'aujourd'hui sera davantage consacrée aux questions de définition, de mise en œuvre, de dispositifs de conception de ressources, et on travaillera plus particulièrement demain sur l'analyse des ressources numériques. Alors dans tout séminaire, il y a une équipe pédagogique, alors celle-ci, s'il fallait la définir, est un peu complexe. Il y a au départ l'équipe EducMath avec Gilles Laddon, Yannat Galova qui sont devant et moi-même. Il y a une contribution aussi de l'UMR ADEF qui est une unité mixte dans laquelle l'INRP est partie prenante avec Claire Margolinas qui fera un cours, une communication en début d'après-midi. Il y a aussi des chercheurs invités qui sont là et qui présenteront une ressource en début de stage et concluront le stage, mais je ne les vois pas. Bon, ils terminent leur présentation. Mamadou Sangaré, qui est à l'ENS de Bamako, et Mustapha Sokna à l'ENS de Dakar. Le directeur a indiqué que l'équipe EducMath est maintenant une composante d'une équipe plus large, qui s'appelle Eductis, et qui rassemble des chercheurs en informatique, du point de vue des apprentissages, des environnements informatiques pour l'apprentissage humain, des chercheurs en didactique, des mathématiques, mais aussi d'autres sciences, et des chercheurs en sciences de l'éducation, et en particulier Jean-Philippe Pernin et Valérie Aymin interviendront cet après-midi. Il y a aussi des chercheurs, des enseignants des équipes associées à l'INRP, Saïd Moufak, qui est dans l'équipe travaillant autour d'A+X à Grenoble, qui interviendra cet après-midi. Il y a aussi des chercheurs de l'équipe d'IDIREM, Mariam Aspekian, Fabrice Vandebroux, qui interviendront demain, je crois. Et puis il y a aussi des membres de l'association CESAMAT, Benjamin Clerc et Sébastien H, qui apporteront leur point de vue dans les échanges qu'on pourra avoir, et plus particulièrement demain. Alors, quelques mots d'introduction avant de laisser la parole à ceux qui présenteront des exemples de ressources. Les ressources numériques, elles correspondent à une demande. Alors, j'ai pas des chiffres très récents, mais le CRDP de Montpellier a fait une enquête en 2003. On demandait aux enseignants, êtes-vous demandeurs de ressources pour l'enseignement? Je sais pas si vous arrivez à voir. Enfin, juste quelques points. Êtes-vous demandeur de ressources numériques sur Internet? Par rapport à la demande d'ouvrages imprimés, 63%, ressources sur Internet, 45%. Et on voit que la variable d'âge, donc, qui manifeste une évolution des pratiques professionnelles, sans doute, est importante. Pour la demande de ressources numériques, les enseignants de plus de 50 ans, 37% d'entre eux formulent cette demande. Les enseignants de moins de 30 ans, 58%. Donc, sans doute cette évolution des pratiques. On peut regarder aussi l'étude suivant les disciplines. Bon, en mathématiques, les demandes de ressources sur Internet, 53%. Bon, ça se situe dans une moyenne, disons, mais très probablement ces chiffres évoluent. Et si on refaisait une enquête du même type maintenant, on trouverait sans doute des évolutions notables. Il existe un organisme au niveau ministériel, la délégation des usages. Ah, première tentative de lien, cette tentative s'avère infructueuse. Bon, j'essaierai de voir si la suivante fonctionne aussi mal. Il y a une délégation d'usage d'Internet que je vous encourage à aller visiter et qui travaille sur des baromètres des usages. Alors, quand on pense à baromètre, on imagine des mesures qui sont faites régulièrement. En fait, sur le site du ministère, ça n'apparaît pas être le cas, puisque la dernière mesure date de 2005, et c'est la seule mesure qui apparaît. Et les mesures sont assez grossières. Il s'agit à chaque fois d'échantillons de 1500 personnes interrogées. Et on voit par exemple que, si mes souvenirs sont exacts, 65% des enseignants, d'après ce baromètre, indiquent qu'ils utilisent Internet dans le travail avec leurs élèves. Bon, c'est un résultat qui paraît extrêmement élevé. Les enquêtes qu'on a réalisées dans le cadre de projets européens à Montpellier, enfin dans l'Académie de Montpellier et en Catalogne, indiquent des chiffres qui sont de moitié, hein. Donc, il y a une demande. La façon ensuite dont les ressources sont utilisées et ne correspond sans doute pas à cette demande, puisque le stage le montrera sans doute, utiliser des ressources, les mettre à sa main, combiner différentes ressources est certainement quelque chose de complexe. Alors, une demande de quelles ressources et pour quels usages? Alors, j'ai essayé en préparant ce stage avant-hier d'utiliser un moteur largement utilisé, Google, et de lancer cette recherche ressources numériques, mathématiques, enseignement, pour voir ce que j'obtenais. Alors, ce qu'on obtient change de jour en jour. Je l'ai refaite hier et ce matin, je n'obtenais pas les mêmes choses. Ce qui est venu en premier, c'est une ressource numérique du CERIMES, Centre de ressources et d'informations pour le multimédia dans l'enseignement supérieur. Et avec une déclaration qui est tout à fait intéressante, enfin un cours de Stanislas Dehaene, qui est un membre de l'Académie des sciences. Voilà un lien qui fonctionne. Un membre de l'Académie des sciences, et qui c'est intéressant puisqu'il a participé à la formulation de l'avis de l'Académie des sciences sur le calcul, et qui propose une communication sur les représentations mentales et les structures cérébrales permettant au cerveau humain de créer des mathématiques. Je ne sais pas si vous entendez. On n'entend pas le son?
Il travaille aussi au service hospitalier Frédéric Joliot du CEA. Il travaille sur la représentation mentale des nombres et du langage. Et a beaucoup travaillé et travaille beaucoup sur l'imagerie cérébrale. Il a publié plusieurs ouvrages. Les deux plus connus sont La bosse des maths, paru en 1997 chez Odile Jacob, et Le cerveau en action, paru chez Puf en 1997. Voilà, je vous remercie et je lui laisse la parole.
Voilà, j'ai laissé jusque-là parce que j'étais tout à fait intéressé par avoir la communication de Stanislas Dehaene, mais ça ne marche plus, la ressource ne marche plus, c'est pas lié à mon poste, juste au moment où il va parler. Enfin, bon, c'est simplement anecdotique, mais c'est un des éléments de la recherche de ressources sur Internet que tout le monde connaît, une grande richesse, des ressources parfois inattendues, mais l'usage de ces ressources, leur exploitation, pose souvent des problèmes. La deuxième ressource qui apparaît pour la recherche à partir de ces trois mots-clés, c'est une ressource proposant des cours en ligne, ressource pédagogique du collège virtuel, pardon, qui est hébergée par l'université de Bourgogne, et qui propose des cours en ligne et des bases d'exercices pour tous les niveaux scolaires, collège et lycée. Alors j'ai regardé un petit peu, classe. Bon, c'est toujours intéressant de voir pour une classe donnée un cours complet, des exercices corrigés et des jeux. J'ai regardé par exemple le théorème de Pythagore en souhaitant utiliser des exercices interactifs corrigés. Que dit le théorème de Pythagore? C'est une question évidemment intéressante. Et alors, on tombe sur des fiches d'exercices que j'ai parcourues et qui évidemment laissent perplexe. Parce que, par exemple, cette question, l'hypoténuse est. Qu'est-ce que vous mettriez, vous? Franchement, j'ai essayé baisser. Ça me paraissait raisonnable, donc je teste. On me demande de recommencer. Alors, j'ai essayé avec CB, j'ai essayé en minuscule aussi. Bon, on me demandait toujours de recommencer. Bon, c'est quand même un site qui est hébergé par l'université, donc on pense qu'il y a une certaine garantie quand même, hein. Bon, laissons tomber ceci. Théorème de Pythagore. Alors, je pense que BC n'est pas égal à ça. Bon, on me dit bravo. Et alors, on a comme ça, c'est le caractère interactif des exercices, qui s'est présenté comme interactif, qui se résume comme ça des tests et des réponses, bon, qui sont parfois non surprenantes pour professeurs de mathématiques, mais parfois laissent dans une certaine perplexité. Il fallait répondre aux deux questions à la fois ? Je regarde. Ah, d'accord. Alors, je recommence. Alors, je mets des crochets. Ah, je mets baissé. Ah, et d'accord. Et je teste. Ah. Mais vous connaissiez le site ? Non, vous êtes des utilisateurs experts. Hein. Bon, alors ensuite, j'ai quand même précisé ma recherche pour avoir des ressources institutionnelles, et j'ai rajouté ministère. Et on tombe directement sur EducNet avec de nombreuses ressources. Alors j'en ai testé une, qui est la première qui est arrivée, d'ailleurs, le magicien. Bon. Alors, le magicien ne marche pas, je laisse tomber, mais c'est une ressource assez intéressante d'un autre point de vue, parce que c'est une ressource, le tableur, je ne sais pas si Mariam, tu la connais, on voit une classe travailler avec un tableur, c'est une petite vidéo, ensuite on peut cliquer sur le scénario, on a accès à un scénario sommaire, et en cliquant sur un fichier PDF, on a accès à un scénario plus développé. Et ce qui m'a paru tout à fait intéressant, c'est qu'entre avant-hier et hier, la ressource avait évolué, parce qu'avant-hier, quelque chose était intéressant dans le scénario, on disait, est-ce que c'est une ressource facile à mettre en œuvre ? Et puis la réponse était non, alors ce qui me laissait un peu perplexe, on clique dessus et on a accès à un scénario plus développé, on redemande, est-ce qu'avec le scénario, la ressource est facile à mettre en œuvre ? La réponse indiquée est non. Alors je me demandais quel était l'objectif du ministère ou de la personne qui propose ce scénario. En montrant une vidéo, on voyait que ça se passait bien et en indiquant que ce n'était pas du tout facile à mettre en œuvre. Donc, c'est ce que je me proposais de vous montrer aujourd'hui, mais hier, ça avait changé. Et dans le scénario, il n'y avait plus cette évaluation de la difficulté du scénario. Bon, donc, ceci, juste en guise d'introduction, on aura le temps de retravailler sur ces questions-là, mais pour montrer que la diversité des ressources, du point de vue technique, bon, la difficulté d'avoir accès à des ressources qui sont fiables, on l'a vu pour l'intervention de N, pourtant qui est présentée par un service, qui est un service, c'est-à-dire c'est une institution, c'est quelque chose qui est en général fiable. La difficulté d'utiliser des ressources en ligne, même validées par une université, les règles ne sont pas claires. Et puis ensuite, ce caractère évolutif extrêmement rapide de ressources, comme par exemple dans la base EducNet. Alors la première étape qu'on vous propose, on va voir si ça marche bien pour ces jours de réflexion, c'est de partir sur des exemples de ressources numériques en guise d'état des lieux, et c'était notre proposition pour préparer ce stage, quand on vous a tous sollicité pour que vous envoyiez un exemple de ressources numériques et en donnant des exemples, en donnant aussi les critères qui vous faisaient choisir cette ressource. Certains d'entre vous ont donné comme critère que c'est une ressource qui avait été utilisée, qui avait donné tel ou tel effet intéressant. D'autres critères étaient qu'au contraire, c'était une ressource que vous avez trouvée non pertinente ou difficile à mettre en œuvre ou qui posait des problèmes didactiques intéressants. Mais pour la plupart d'entre vous, ce que vous avez envoyé, c'est des ressources propres que vous aviez vous-même conçues ou que vous aviez recomposées à partir d'autres ressources. Et on a essayé de choisir 6 ressources représentatives simplement d'une certaine diversité, parce que ça a été difficile, vu cette extrême diversité, de choisir des critères clair et qu'on pouvait justifier complètement. Alors, la présentation qu'on va vous demander pour les 6 ressources qui seront présentées, c'est de faire une présentation synthétique en essayant de le faire dans les 10 minutes à peu près imparties, donner simplement certains éléments de présentation qui vous semblent intéressants pour introduire la discussion du stage et puis de donner les critères de votre choix. Alors, je ne sais pas qui commence, Frédéric Colleux, peut-être ? Ben voilà. Est-ce que c'est l'ordre alphabétique ? Pas même. Comment ? Ben, elles sont indiquées. Alors, il y a une ressource de Frédéric Colleux en lycée, ressource tableur. Il y a une ressource de Jean-Louis Humbert en primaire, Mais peut-être, Gilles et Yana, je vous laisse la parole, peut-être parce que vous vouliez indiquer aussi ce qu'il y avait dans les chemises. Je te laisse plus.
Bon, je prends Gilles Aldon, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais d'abord vous présenter les pochettes qu'on va vous donner, dans lesquelles il y a un certain nombre d'éléments pour le stage, en particulier l'ordre du jour, le plan, et puis également les six ressources qui vont être présentées maintenant, avec un bref résumé de ces ressources. Évidemment difficile à mettre dans une pochette papier puisque par définition il s'agissait de ressources numériques et donc simplement des éléments qui vont nous permettre de pouvoir nous y référer tout au long du stage. Par ailleurs, dans cette pochette, nous avons mis une synthèse des avis que vous nous avez envoyés, des critères que vous nous avez envoyés sur le choix des ressources proposées pour le stage. Donc, il y a cette synthèse qui est dans la pochette. Et également, nous avons mis, et ça, c'est pour préparer le travail qui se fera dans l'atelier de demain matin sur l'analyse des ressources, nous avons mis des propositions, des squelettes de grilles d'analyse. Il s'agit simplement de squelettes qui seront retravaillés, mais peut-être une bonne idée serait de commencer à regarder comment appliquer ces squelettes de grilles sur justement les six propositions de ressources qui vont être faites dans cette matinée. Voilà, je crois, Yana, que j'ai rien oublié de présenter. Donc, maintenant, on va laisser successivement la parole alors peut-être dans l'ordre qui est ici. Donc, pour présenter assez rapidement les ressources, on a essayé de regarder une diversité qui était d'une part au niveau du public visé, c'est-à-dire lycée, primaire, collège, une diversité au niveau des outils utilisés, que ce soit des tableurs, des tableaux interactifs, des logiciels de géométrie dynamique, des sites internet, et également une diversité au niveau des thèmes présentés, donc des simulations, ou bien des représentations d'objets, ou bien un cours complet. On va voir en particulier que les propositions, les ressources qui ont été données ont des niveaux de granularité complètement différents, hein, autant ça peut être une ressource pour une séquence de classe qu'une ressource pour un cours complet à l'intérieur d'une classe, d'un niveau de classe. Voilà, donc bien, je vais laisser la parole. C'est possible d'ouvrir le fichier Excel.